Bien, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. C'est le 20e, j'ai compris, anniversaire de ces retraites. J'ai vécu à Bordeaux pendant plusieurs années, entre 6 et 7 ans, et c'est la première fois que j'assiste à la retraite des églises. Et je suis vraiment ravi de pouvoir assister à cette retraite lors de son 20e anniversaire, et puis surtout en présence de Charles et Babs, hein, qu'on a bien connus. Je vous transmets les salutations de l'église de Saint-Denis, à Paris, et particulièrement les salutations de la famille Bixby, Timothée, Ruth et les enfants. Timothée m'a envoyé un petit mail hier, il m'a dit « nous sommes un petit peu jaloux hein. ». Donc ils auraient bien aimé être là, mais ce n'est pas possible. Voilà, donc je suis aussi très honoré de pouvoir présenter la parole, en tout cas, avoir quelques temps de méditation avec vous. C'est la première fois que je dois présenter plusieurs études en très peu de temps. Une étude chaque semaine, j'ai eu l'habitude, mais plusieurs pendant un week-end, c'est la première fois. Alors, j'ai pas l'habitude de calibrer les longueurs, mais je crois qu'on m'a dit qu'ici, vous êtes habitués aux prédications comme celle de l'apôtre Paul qui durait jusqu'à minuit et où il descendait, ressuscitait ceux qui étaient tombés et puis il continuait encore jusqu'au petit matin. Hein. Voilà, après je vais essayer de faire attention. J'ai entendu, c'est Anne tout à l'heure qui a dit que je crois que les études seront aussi sur le thème de « à travers le monde ». Pas tout à fait, même elles vont s'adresser au monde, en tout cas elles seront à travers la Bible, et je pense que ça va aussi entrer dans le cadre de ce que nous voulons avoir comme édification pendant ce week-end. Alors, imaginez que vous soyez sur le point de mourir, imaginez seulement je dis, hein. Que vous soyez sur le point de mourir. Vous savez que vous allez partir, le Seigneur vous l'a dit. Qu'est-ce que vous feriez dans ces derniers instants qui vous restent? Imaginez ça, tout à l'heure, on a rempli des papiers, si on était tout seul sur une île, qu'est-ce qu'on emporterait avec nous? Voilà, la question est presque la même. Si vous étiez, le Seigneur vous a dit, voilà, l'heure de son départ approche, il te reste très peu de temps. Qu'est-ce que nous ferions? À quoi utiliserions-nous notre temps, les derniers moyens, les dernières forces qui nous restent? Il y a un homme du nom d'Adolphe Monod, qui est un prédicateur français du 19e siècle, et qui avait réuni autour de son lit de mort plusieurs personnes, hein. De ses amis avec lesquels il s'entretenait de choses qu'il avait estimées importantes pendant ces derniers temps qui lui restaient. Alors, on trouve cela dans le livre qui s'appelle « Les adieux », hein. Il parle de la foi, du péché, de l'autorité de l'écriture, de la lecture de la Bible, de l'utilisation du temps, les bonnes lectures, toutes ces choses qui lui semblaient importantes. Et il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Pierre, que vous connaissez bien, à qui le Seigneur avait dit qu'il ne tarderait pas à partir, qu'il allait déloger, comme on dit. Et étant conscient que l'heure de son départ approchait, eh bien, Pierre a réuni toute son énergie, toutes les forces qui lui restaient pour donner les dernières recommandations à des chrétiens. Et vous savez ce qu'il a fait? Je ne sais pas si nous avions à donner les dernières recommandations, ce que nous aurions dit aux gens. Est-ce que nous aurions raconté des choses que nous n'avions pas eu le temps de raconter, ou des histoires sur les autres, ou je ne sais pas, hein, ou des choses croustillantes? Pierre, ça n'était pas du tout son cas. Quand il a su qu'il allait partir, eh bien, il a écrit deux épîtres. Et il dit que dans les deux épîtres, ce qu'il cherche à faire, c'est de rappeler aux souvenirs des chrétiens les réalités et les vérités de l'Évangile. Il n'a rien fait d'extraordinaire, on pourrait dire. Il n'a pas apporté de nouveauté. Il n'a rien dit de nouveau. La Bible dit qu'il a fait simplement de rappeler des choses qu'il savait déjà et dans lesquelles même ils étaient déjà affermis. Si vous regardez le verset, ne cherchez pas, mais chapitre 2 Pierre, chapitre 1 et au verset 12, il dit « À ceux qui savent déjà ces choses et qui sont affermis dans la vérité présente, eh bien je vous rappelle. » Lorsque souvent on rencontre quelqu'un qui sort d'une prédication, on me pose cette question, alors qu'est-ce que tu as appris de nouveau? Et si la personne dit, nous avons parlé du péché, de la justification, de la régie. Oui, d'accord, mais de nouveau, qu'est-ce que tu as appris? Et on cherche toujours à apprendre ou à avoir quelque chose de nouveau. La nouveauté semble être ce qui est recherché. Si vous avez une entreprise et que vous ne sortez pas chaque année des nouveautés, votre entreprise va à sa faillite. C'est pour cela que les grandes marques de téléphone sortent chaque année des nouveautés. Les nouveautés en elles-mêmes ne sont pas grand-chose, mais le fait de pouvoir dire qu'il y a des petites fonctions nouvelles, ça permet de maintenir à flot la société. J'ai lu que même les maisons d'édition qui éditent des livres doivent avoir aussi leur rayon nouveauté. Sinon, les gens ne rentrent pas et n'achètent pas. Et il y a un poète allemand, Goethe, que vous connaissez peut-être, qui a dit ceci. Il a dit « Le grand public pense que les livres sont comme les œufs. Ils gagnent à être consommés frais. C'est la raison pour laquelle il choisit toujours la nouveauté. » Les gens entrent dans une librairie et ils vont chercher la nouveauté. Les grands classiques sont de plus en plus délaissés. Cette dictature, parfois, de la nouveauté, gagne aussi les églises. Et on veut toujours, parfois, innover, faire des choses nouvelles. Et j'ai lu sur un article que il y a un sociologue qui a fait une étude, en 2002, je crois, ou il n'y a pas très longtemps, en tout cas, sur les églises évangéliques qui innovent. Et il a montré comment ces églises font des efforts pour maintenir à l'intérieur les jeunes. Alors, on va changer la musique, on va changer beaucoup de choses. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans le but d'apporter de la nouveauté et de garder les gens. L'apôtre Pierre avait travaillé plusieurs années afin d'établir et d'affermir ses frères, comme le Seigneur lui avait demandé. Vous vous rappelez, lorsque tu seras revenu, affermis tes frères. Et il l'avait fait. Et après l'avoir fait, quand il arrive à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, la Bible dit qu'il va mettre, on va regarder ça dans 2 Pierre, je vous invite à ouvrir votre Bible dans 2 Pierre, si vous l'avez. Sinon, vous pouvez allumer vos Bibles, pour ceux qui ont des Bibles électroniques. Je suis toujours un partisan de la version papier, moi. Donc 2 Pierre, chapitre 1. 2 Pierre, chapitre 1, et à partir du verset 12, 2 Pierre 1, à partir du verset 12, l'apôtre Pierre dit ceci, il dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Verset 15. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Chapitre 3, verset 1. Il dit, voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et du Sauveur enseigné par vos apôtres. Et ce qu'il dit ici, je n'ai aucune nouveauté à vous apprendre, à vous apporter. Ce que je veux, c'est que vous puissiez vous souvenir des vérités que je vous ai déjà enseigné les vérités qui sont dans la parole de Dieu. Cela nous dit que le besoin le plus fondamental de chaque chrétien et de chaque église, ça n'est pas d'avoir des révélations nouvelles, ça n'est pas de découvrir une doctrine nouvelle, mais c'est d'être rappelé constamment des vérités qui sont contenues déjà dans la parole de Dieu. On raconte, peut-être que vous connaissez cette histoire, d'un jeune étudiant qui termine ses études là à l'Institut biblique, et puis il doit faire un sermon de fin d'études. Et il y avait là tous les doyens de la faculté, de l'université qui étaient là. Et puis, j'ai dit, il faut que je prépare quelque chose de bien. Et donc, il a fait son sermon. Et puis ensuite, après, il fallait qu'il passe devant donc le jury. Hein. Et le doyen lui a dit ceci, il lui a dit, « Jeune homme, dans votre prédication, il y avait du bon et du nouveau. » Et il était assez satisfait. Il a dit seulement, le nouveau n'était pas bon et le bon n'était pas nouveau. Et donc, il a voulu lui dire ainsi que ce qu'il y a, c'est que on n'a pas besoin de faire de la nouveauté pour que ça soit bon. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Elle est toujours bonne et elle est toujours nouvelle. Et c'est pour cela qu'il faut, comme le chant le dit, hein, la répéter souvent. Vous vous rappelez, redites-moi l'histoire de la crèche à la croix. Éveillez ma mémoire oublieuse parfois. Cette histoire si belle, dites-la simplement, elle est toujours nouvelle, répétez-la souvent. Et c'est exactement ce que Pierre fait ici avec les chrétiens. Il dit, je prendrai soin, je vois comme un devoir de vous rappeler ces choses. Mais pourquoi fait-il cela? Pourquoi est-ce qu'on a besoin que l'on nous rappelle constamment les choses? Mais tout simplement parce que nous oublions très vite. Hein, vous demandez à une femme si son mari oublie, vous dira, oh, je lui ai demandé de faire plusieurs fois, je lui ai demandé de me faire des choses. Il les a toujours pas faites. Hein. Il a oublié ceci, il a oublié cela. Et on oublie très très facilement. Il y a un psychologue qui en 1885, a mis en évidence ce qu'il appelait la courbe de l'oubli. Et il dit ceci, il dit, en une journée, nous oublions la moitié de l'information apprise. En une journée. Et il ajoute, après deux jours, nous avons oublié 80% pour n'en conserver que quelques traces au bout d'une semaine. En revanche, dit, si on répète quelques instants après la leçon, on éloigne l'instant de l'oubli. Il appelle ça la courbe s'aplatit. Une répétition quelques heures rattrape la trace mémoire juste avant qu'elle ne disparaisse. Ensuite, une révision serait la bienvenue le lendemain, puis deux jours après, et ensuite après quatre jours, et après sept jours. Il est en train de dire que si on veut que les choses restent, il faut les répéter souvent. Et l'apôtre Paul disait, je ne me lasse point de vous répéter, de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, dit-il, cela est salutaire. Et d'autres textes disent, pour vous, c'est votre sûreté. La sûreté n'est pas dans la nouveauté, la sûreté est dans la répétition de la bonne nouvelle. Et c'est pour cela que nous devons apprendre, mémoriser, lire. Quand on entend une prédication et que on dit ah ben bon, je connais, j'ai déjà ce texte, ça veut dire qu'on en a besoin encore. L'apôtre Paul il dit qu'il s'adresse à des gens qui étaient déjà affermis dans la vérité présente et qui savaient les choses qu'il était en train d'enseigner. Alors ce que Pierre va faire ici, c'est vraiment dans cette épître qui est très courte, trois chapitres, eh bien, rappeler constamment, donc au souvenir de ces chrétiens, les vérités qu'ils ont déjà apprises. Il dit ici, je veux toujours que vous vous souveniez de ces choses. Alors, quelles sont ces choses? Et c'est ça que je vous propose de voir pendant ces ces différentes sessions, quelles sont les choses dont il faut se rappeler. On va voir quelques petites choses, parce qu'il y en a tellement, l'épître est courte, mais il y a beaucoup de vérités profondes. Quelles sont ces choses? Eh bien, il dit « voilà pourquoi hein ». Donc, quand il arrive au verset 12, donc le « voilà pourquoi » se rapporte très certainement à ce qu'il a dit juste auparavant. Et qu'a-t-il dit auparavant? Eh bien, c'est tout ce qu'il y a dans les 11 premiers versets où il va parler véritablement du salut, de la réalité de leur foi, de la réalité du salut. Alors, je vous propose ce soir que nous puissions voir quelques éléments de ces choses qu'il faut se rappeler. Et donc, j'ai intitulé la première méditation ici. Eh bien, le thème général que j'ai choisi, en tout cas, c'est « Souvenez-vous de ces choses ». Et chaque fois, on va voir de quelles choses il faut se souvenir. Et ce soir, dans quelques instants qui nous restent, je voudrais voir avec vous « Souvenez-vous de ces choses », et ces choses, c'est la réalité, ce sont les réalités et les implications de votre salut. Les réalités et les implications de votre salut. Le premier rappel que va faire Pierre, c'est un rafraîchissement de la mémoire sur le salut. Un peu comme Jude quand il écrit, hein, « Je veux vous écrire au sujet de notre salut commun hein. ». Et pour lui, c'est la première chose, c'est le point de départ. Toute chose. Et le chrétien doit être conscient, pas simplement qu'il est sauvé, mais il doit être rappelé de ce que ça veut dire qu'il est sauvé, qu'il est un enfant de Dieu. Et ces réalités ont besoin d'être rappelées constamment à son esprit. Le reproche qui est fait souvent au peuple d'Israël, quand vous lisez l'Ancien Testament, c'est qu'il a oublié. Écoutez ce qu'il dit dans Ésaïe, chapitre 17, verset 10, il dit « Car tu as oublié le Dieu de ton salut. Tu ne t'es pas souvenu du rocher de ton refuge. » Et puis, Moïse, dans le Deutéronome, il dit « L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré de donner à tes pères, à Abraham, à Isaac. » Il dit « Tu posséderas de grandes et de bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons pleines, sortes de toutes sortes de biens, et que tu n'as point rempli des citernes creusées, que tu n'as pas creusées, des vignes, des oliviers que tu n'as point plantées. » Et puis il ajoute, « Lorsque tu mangeras et te rassasiras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Et ce que je remarque, c'est que la chose particulière sur laquelle le Seigneur Dieu insiste pour que ce peuple garde une mémoire bien vive, c'est la sortie d'Égypte, la délivrance d'Égypte qui symbolise vraiment notre salut. Et on a tendance souvent à oublier qu'on a été sauvé par la grâce de Dieu. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis du pays d'Égypte, Exode chapitre 13. Vous savez, Dieu a donné la Pâque pour que le peuple puisse se rappeler de sa sortie d'Égypte. Souvenez-vous de ceci. Tu diras à tes fils, à ton fils, quand tu te demanderas pourquoi est-ce qu'on fait tout cela, hein, tout ce mémorial, pourquoi est-ce qu'on applique toutes ces choses, tu diras à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main, comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est par la main puissante de l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Et là, c'est quelques extraits que j'ai choisis. Il y a, vous lisez la Bible et vous voyez combien de fois Dieu rappelle au peuple sa sortie d'Égypte. La scène, c'est quoi la scène? La sainte scène. C'est un mémorial. Quand le Seigneur l'a donné, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Mais qu'est-ce que cela représente? Le sacrifice de Christ à la croix du calvaire pour nous. Pourquoi? Pour que nous ne puissions pas l'oublier, parce que nous avons tendance à oublier. On peut se rappeler de beaucoup de choses agréables, de bénédictions que le Seigneur nous a accordées, et oublier fondamentalement ce qui est le plus précieux, notre salut. Vous vous rappelez lorsque Jésus avait envoyé ses disciples, puis qu'ils sont revenus, puis ils ont dit, « Oh Seigneur, les démons même nous sont soumis !» Et ils se réjouissaient parce que ils arrivaient à chasser les démons, ils voyaient cette puissance qui se manifestait à travers eux, et c'est le Seigneur lui-même qui leur avait donné cette puissance. Et qu'est-ce que Jésus leur dit? Il leur dit, « Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Le salut encore, c'est la chose qui est vraiment importante. Et Pierre dit ici la même chose au verset 1 que nous allons lire de cette première épître, deuxième épître, pardon. Il dit, « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. » Il s'adresse à ceux qui ont reçu une foi du même prix, dit-il, que la nôtre. La première chose qu'il met en évidence, donc on l'a dit ici, c'est leur salut, mais il parle en termes de foi reçue. Et foi de même prix que celle des apôtres. D'autres textes disent que c'est une... D'autres traductions parlent de foi précieuse. Il leur parle de leur précieuse foi. C'est une foi précieuse, on le voit ici, parce que elle est reçue en partage par Dieu. L'expression reçue en partage, c'est celle qui est traduite par... C'est comme un tirage au sort, quelque chose qu'on a obtenu sans qu'il n'y ait aucun effort qui vienne de nous-mêmes. C'est Dieu qui vous l'a accordé. C'est une foi qui vous a été donnée par Dieu. La Bible dit que c'est Dieu qui suscite la foi et qui l'amène à perfection. Et Pierre dit que c'est une foi précieuse parce qu'elle vous a été donnée par Dieu. Elle vous a été attribuée sans que vous n'ayez fait quoi que ce soit de vous-même. Dieu vous l'a accordée. Elle est précieuse parce qu'elle, regardez le verset, dit aussi qu'elle repose sur la justice, une foi de même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. On parle souvent de cet échange, hein, cette imputation de la justice de Dieu. Pierre dit, elle est précieuse cette fois parce qu'elle vous a été imputée, elle a été obtenue par la justice du Fils de Dieu, de Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui, dans son corps, sur le bois, a porté nos péchés. C'est lui qui est notre justification. Et en cela, c'est une foi précieuse. Ce qui fixe la valeur de la foi, ce n'est pas le fait que moi je l'ai reçu, c'est le fait que Dieu lui-même me l'ait accordé et qu'il l'ait accordé sur la base de la justice de son Fils. Et Pierre, vu que ces choses restent dans la mémoire de ses lecteurs, il disait au chapitre 1 déjà, « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. » Ce terme-là d'ailleurs, le mot « précieux », c'est un terme qui est cher à Pierre. Hein. Il emploie, vous allez voir un peu plus tard, il parle de promesses précieuses. Hein. Là, il parle de foi précieuse. Il avait parlé au chapitre 1 du précieux sang du Seigneur Jésus-Christ. Et donc il dit, ce n'est pas de n'importe quelle manière que vous avez été racheté, mais c'est par le précieux sang de Jésus-Christ. Donc, vous devez vous rappeler cela lorsque vous pensez à votre salut. Cette foi est de même prix car elle produit que celle qu'a eu Pierre, que celle qu'a eu Paul, que celle qu'a eu Jude, que celle qu'a eu les autres. Ce n'est pas une foi au rabais, ce n'est pas un salut allégé. Maintenant, on parle de beaucoup de produits allégés, des yaourts allégés en matière grasse. Hein. Et votre foi, elle n'est pas allégée en matière grasse. C'est écrit grasse, G-R-A-C-E. Hein. Elle n'est pas, c'est la même grâce que celle de Pierre, que celle qu'a reçu Pierre, qu'a reçu Jude, qu'a reçu Paul, qu'a reçu les autres apôtres. L'apôtre Paul le disait, il dit aux Philippiens, il dit, il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense de la confirmation de l'évangile, vous tous qui participez à la même œuvre, grâce que moi. Ce n'est pas une grâce différente pour les chrétiens du XXe siècle, hein, et puis par rapport à ceux du premier siècle. Non, nous avons la même grâce, la même foi, une foi de valeur égale, et elle nous est donnée par Dieu, sur la base de la justification en Jésus-Christ. Deuxième chose aussi, que l'on peut voir dans ce passage, alors on va regarder au partir du verset 3 ici. Pierre dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Il focalise leur pensée sur le salut, les réalités du salut, le prix de ce salut, mais aussi sur les ressources qui accompagnent ce salut, les ressources qui accompagnent cette foi. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue, dit-il, à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. L'une des pensées que l'on a parfois, c'est que l'on est sauvé par grâce, oui, mais qu'il nous manque des choses pour vivre cette vie chrétienne. Il nous manque des choses pour vivre pieusement. Et parfois, on va chercher ailleurs une expérience par-ci, une expérience par-là, pour espérer vivre une vie plus chrétienne, plus heureuse. Et Pierre dit non, vous avez tout ce qui contribue à la vie éternelle, à la vie, j'ai envie de dire, la vie de piété. Et il dit que c'est que même la puissance, divine puissance du Seigneur vous a donné tout ce qui contribue à cette vie et à cette piété. Et je crois que en lisant cela, il attire l'attention sur un fait, c'est que la vie de piété est une exigence de Dieu. Parce que si le Seigneur donne par sa puissance ce qui contribue pour vivre d'une certaine manière, c'est que cette vie-là est importante. On ne peut pas penser que Dieu nous fournisse des outils, des moyens pour vivre quelque chose qui n'a pas d'importance. Et donc, je crois que l'une des choses, quand il parle de ces ressources qui accompagnent la foi, il dit, ces ressources vous sont données pour vivre une vie de piété. Donc, Dieu veut que vous viviez une réelle vie de piété. La piété, c'est tout ce qui concerne notre relation avec Dieu. Il y a même quand on lit dans la Bible, on voit qu'il y a aussi une dimension de relation envers les parents et aussi envers les autres. Hein. Mais tout ce qui est notre relation avec Dieu, notre pureté, oui, notre sanctification. Et Dieu vous a donné tout ce qu'il faut pour vivre ces choses-là. Et donc, si il nous donne tous les moyens pour le vivre, c'est que cette vie lui est agréable. La Bible dit, le culte agréable à Dieu est selon la piété. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons-nous reconnaissants en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Hébreux chapitre 12 et au verset 28. Donc la vie de piété est une exigence de la part de Dieu. Deuxième chose que cela nous montre, c'est que la divine puissance de Dieu est nécessaire pour vivre cette vie de piété. Je ne peux pas vivre une vie de piété tout seul, par moi-même. Je ne peux pas vivre une vie qui soit agréable à Dieu simplement par mes propres moyens, par mes efforts. Si Dieu nous donne par sa puissance ce qui est nécessaire pour vivre cette vie, c'est que je ne peux pas la vivre sans cela. Donc premièrement, on a dit que cette vie est nécessaire, une vie de piété est même exigée par Dieu, mais je ne peux pas la vivre sans les outils, sans ce que Dieu me donne pour la vivre. J'ai besoin donc de cette puissance pour vivre cette vie de piété. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de cette puissance pour vivre cette vie de piété? Parce que la Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés.
Et quand on est persécuté, on ne peut pas trouver des ressources en nous-mêmes pour continuer à mener une vie de piété qui soit à la gloire de Dieu, une vie de pureté, une vie saine. On ne peut pas aimer ceux qui nous persécutent sans la puissance que Dieu nous donne pour pouvoir le faire. Et on a besoin que cette divine puissance, avec tout ce qu'elle apporte, eh bien, on en a besoin pour vivre cette vie de piété. On se moque de nos jours des chrétiens, on dit qu'ils sont archaïques, on dit qu'ils n'ont pas compris que le monde a changé. Et le chrétien ne doit pas s'attendre à être aimé du monde. Jésus avait dit, vous serez haïs du monde. Donc, le chrétien qui est aimé du monde doit se poser des questions. Parce que le monde aime ce qui lui ressemble. Et donc, si le chrétien, Jésus lui-même a dit que vous serez haïs parce qu'ils m'ont haï, si vous êtes le bienvenu dans le monde, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que cette vie de piété, elle n'est pas là. Et nous avons donc besoin de prendre cela en considération. Au chapitre 2 de cette même lettre et au verset 9, l'apôtre Pierre dit « Le Seigneur fait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. » Donc cela laisse sous-entendre vraiment que ceux qui cherchent à vivre vraiment une vie proche du Seigneur connaissent souvent des difficultés. Alors, bien sûr, on est en France, on n'a pas forcément des persécutions particulières. Ce n'est pas le cas sur toute la planète. Mais quand même, on peut, dans le lieu du travail, dans le voisinage, connaître des difficultés qui sont essentiellement liées au fait que l'on veuille marcher avec le Seigneur, que l'on soit simplement chrétien. Pour des petites choses. Mais vous pouvez connaître une affliction, une persécution qui soit liée vraiment au fait que vous êtes un enfant de Dieu. Et nous avons besoin, même si ces choses paraissent pas très grandes par rapport à ceux qui souffrent la persécution dans d'autres pays, nous avons quand même besoin de la puissance de Dieu pour apprendre à pardonner, apprendre à supporter. Quand on reçoit des moqueries, ce n'est pas toujours agréable. Et on a besoin de cette puissance, divine puissance, pour vivre toutes ces choses. Cette grande puissance, vraiment, c'est celle que le Seigneur met à notre disposition. Puis il nous dit aussi que cette divine puissance que l'on a besoin pour aimer nos ennemis, pour pardonner, pour obéir, pour se garder pur, pour avoir la maîtrise de soi, pour supporter la souffrance, pour espérer contre toute espérance, toutes ces choses-là, c'est impossible sans la divine puissance et tout ce qu'elle apporte. Eh bien, l'apôtre Pierre dit que cela nous est donné par le moyen, regardez ce qu'il dit au verset 3 toujours, le moyen de la connaissance, la divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. C'est vraiment par la connaissance de Jésus-Christ que ces choses nous sont données. Il faut apprendre à connaître le Seigneur Jésus-Christ pour que cette puissance puisse être manifeste et efficace dans notre vie. On ne peut pas connaître la puissance sans connaître Jésus-Christ. On ne peut pas grandir sans une connaissance intime. Le mot que tu disais ici pour connaissance, c'est une connaissance vraiment expérimentale, une connaissance intime. Notre salut exige que nous connaissions celui qui nous a appelés. Et c'est ce que Pierre dit ici. C'est pas juste savoir, oui, je suis sauvé, j'ai prié à tel jour, à telle époque, dans le passé. C'est de savoir ce que ce salut-là représente en termes de prix payé pour nous et en termes de ressources que Dieu met à notre disposition et par la connaissance que nous pouvons avoir de lui. Donc cela exige vraiment que nous cherchions à le connaître. Pas de puissance pour vivre la vie de piété sans connaissance de Jésus-Christ. C'est impossible. Pas de grâce et de paix sans connaissance de Jésus-Christ. Regardez le verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre
Seigneur. Regardez le dernier verset du chapitre 3. Ici, le dernier verset du chapitre 3. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le mot final de Pierre, on va le voir à la fin, mais c'est son mot final. Donc on voit combien cette connaissance de Jésus-Christ est importante pour le chrétien. S'il y a quelqu'un sur la planète qui doit connaître Jésus-Christ, c'est bien un chrétien. Hein? Et c'est vraiment, il faut se poser la question, mais est-ce que je cherche à connaître vraiment mon Seigneur et mon Sauveur? Il n'y a pas de possibilité d'expérimenter cette puissance sans passer par cette connaissance grandissante et croissante de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis il ajoute aussi, donc j'avance un tout petit peu, il dit au verset 3 toujours, que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, verset 4, et celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Il est en train encore d'expliquer ce que c'est que le salut ici, hein, je pense. Il dit que ce que Dieu veut, c'est que vous deveniez participants, que vous soyez en communion avec lui, que vous deveniez participants de la nature divine. Je ne sais pas si on peut imaginer ce que ça veut dire. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, dans Corinthiens chapitre 1, verset 9, il disait que Dieu nous a appelés à la communion de son Fils. Et ici, l'apôtre Pierre dit que Dieu veut que nous devenions participants de sa nature divine, que cela soit visible de plus en plus, que le chrétien ressemble de plus en plus à Jésus-Christ dans sa pureté, dans les pensées, dans sa vie, et que cela aille en grandissant. C'est ce que Dieu veut. Mais comment cela est possible? Cela est possible en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise ici. Il dit que la corruption qui est dans le monde, elle est par le désir, c'est ce que ça veut dire, par la convoitise. Alors il dit que le Seigneur nous a appelés par sa gloire et par sa vertu, et que cela nous assure des promesses précieuses et grandes, plus grandes que les promesses du désir et de la convoitise. Le parallèle que l'on peut faire ici, c'est que nous n'avançons qu'avec des promesses dans notre vie. Si vous travaillez, c'est parce que vous avez la promesse d'un salaire. Le jour où le patron vous dit « je ne vous paye plus », je ne pense pas que vous allez rester sur le lieu de travail. D'accord? Donc on avance avec des promesses. Le diable, comment est-ce qu'il a tenté Ève ? Et Adam, il a dit, le jour où vous allez manger, vous serez comme Dieu. Il a fait miroiter une promesse. Et lorsque l'on pêche, on pêche parce que on a une promesse dans le péché. Celui qui va chercher une autre femme, c'est parce qu'il a la promesse quelque part que ça sera mieux avec l'autre qu'avec sa propre femme. Vous prenez ce que vous voulez, vous pouvez voir qu'à chaque fois, il y a une promesse contenue dans le péché. Il y a eu une promesse contenue dans le péché au jardin d'Éden. Donc il y a une promesse contenue dans tous les péchés. C'est pour ça que l'apôtre Pierre dit ici que la corruption qui existe dans le monde, elle est par la convoitise, par le désir qu'on nous fait miroiter. Et il dit que par sa gloire et par sa vertu, Dieu nous a donné des promesses plus grandes. Et quelles promesses? Celles, non pas d'être corrompus, mais de devenir participants de sa nature divine. Ce sont des grandes et de précieuses promesses que nous avons. Savoir qu'un jour nous serons avec lui, un jour nous serons transformé, et ce qui est le thème un peu de cette épître, qu'un jour il reviendra et nous prendra avec lui. Ce sont des promesses grandes et des promesses précieuses. Alors pourquoi elles sont plus grandes et pourquoi elles sont plus précieuses que celles qui sont contenues dans la convoitise. Eh bien, je dirais qu'elles sont plus grandes et plus précieuses parce que elles viennent de Dieu. Il y a un homme politique qui a dit que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Vous avez entendu ça déjà. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Mais avec Dieu, il est lui-même engagé dans la promesse qu'il fait. Et l'apôtre Paul disait à Tite, l'espérance de la vie éternelle, promise avant tous les siècles, promesse, par le Dieu qui ne ment point. Voilà pourquoi cette promesse, elle est grande et elle est précieuse, parce qu'elle est faite par un Dieu qui ne ment point, et qu'elle est promise depuis avant tous les siècles. L'apôtre, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, disait, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est pour ça que c'est une grande promesse. Moi, quand je fais une promesse, ma promesse, elle peut se réaliser, mais elle est excessivement soumise aux aléas du climat. S'il fait beau, s'il fait pas beau, il pleut, beaucoup de circonstances, mon état de santé, vont venir entacher la réalisation de mes promesses. Et donc, en ce sens, je ne suis pas fidèle pour faire une promesse. On veut bien en tant qu'être humain. On fait des promesses. On essaie avec la grâce de Dieu de les tenir, mais on peut faire une promesse que l'on, et puis on peut se trouver dans l'incapacité de la réaliser parce que simplement, il y a une maladie qui est arrivée, un accident ou autre chose. Il y a des éléments que je ne contrôle pas qui font que je ne suis pas maître des promesses que je fais. Mais Dieu, il n'en est pas ainsi. L'apôtre dit que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Et Abraham disait que ce qu'il promet, Romains chapitre 4, verset 20, il a la puissance de l'accomplir. Et voilà pourquoi les promesses sont grandes et elles sont aussi des promesses précieuses. Et pour conclure là-dessus, l'apôtre Jean disait, la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Voilà pourquoi c'est une grande promesse. Ce n'est pas la damnation éternelle dans le feu qui ne s'éteint point, là où le ver ne meurt point, mais c'est la vie dans la présence du Dieu d'amour. Voilà pourquoi c'est une grande et c'est une précieuse promesse. Je voulais juste dire une chose. Le diable dans le jardin, l'Éden, il avait promis à Adam et Ève que s'ils mangeaient le fruit, ils deviendraient comme Dieu. Est-ce que cela s'est réalisé? Non, bien sûr que non. Et ici, ce que l'on a, on a l'autre penchant de cela, on a la promesse de devenir participant de la nature divine. Et celle-là, c'est Dieu qui fait cette promesse. Et ça change absolument tout. Voilà pourquoi ce sont de plus grandes et de plus précieuses promesses. Ce que dit Pierre, et ça, ce sont les choses qui sont liées, dit-il, à votre salut. Je rappelle juste qu'il écrit à des chrétiens qui connaissent déjà ces choses, qui sont affermis en elles, mais qui avaient dans leur sein des faux enseignants qui s'étaient infiltrés, des moqueurs, etc. Et ils avaient besoin d'être encouragés dans cela. Il dit aussi que nous sommes appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc, je n'ai pas le temps de développer cela, mais imaginez, pensez aux vertus de Jésus-Christ. Vous pouvez imaginer comment était Jésus-Christ en tant qu'homme sur la terre. Il n'a jamais été en retard à la synagogue ou ailleurs. Ça nous arrive des fois. Il n'est jamais revenu sur une parole prononcée. Il n'a jamais dit, oh, attends, j'ai dit ça, mais je me suis trompé. C'était une vie de perfection. C'était une vie de perfection, de gloire, il dit, et de vertu. Et il dit que c'est comme ça qu'il appelle, qu'il attire. J'ai parlé la semaine dernière avec quelqu'un qui m'a dit ceci. Il m'a dit, j'ai grandi dans l'islam. Il m'a dit, mais vraiment, vraiment, il dit, quand je pense à Mahomet, ce personnage ne m'attire pas. quand je pense à tout ce qu'il a fait, il ne m'attire pas à lui. Mais quand on pense à tout ce que Jésus a fait, toute la perfection de sa personne, de sa vie, étant même sur la terre, cela a la capacité d'attirer les âmes à lui aussi. C'est pour ça qu'il dit que vous êtes appelés par sa gloire et puis aussi par sa vertu, par ses perfections morales. Et puis, je termine donc très rapidement avec les implications quand même, parce que Paul donne quelques implications pratiques à cela. Donc, d'abord, il montre la valeur, le prix de ce salut qui a été accompli, les ressources que Dieu met à disposition, et pourquoi il les met à disposition, afin que nous puissions mener cette vie de piété, ici. Et puis, au verset 5, il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à la foi, à la vertu, à la connaissance, à la maîtrise de soi, à la patience, à la piété, l'amitié fraternelle, l'amour, car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Faites tous vos efforts. C'est un impératif ici. Il y a quelque part l'idée d'empressement, l'idée d'un zèle, d'une hâte à faire les choses. Et le motif que Pierre donne ici, c'est à cause de cela même. Alors on pourrait se dire, je suis sauvé, le Seigneur il a tout fait, amen, alléluia, je n'ai plus rien à faire. C'est lui qui fait, qui accomplit les choses en moi, ne dit-il pas, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Mais Pierre dit que parce que toutes ces choses sont vraies, parce que Dieu vous a sauvé à un prix inestimable, au prix précieux du sang de Jésus-Christ, parce qu'il vous donne par sa puissance tout ce qui est nécessaire pour vivre une vie de piété, parce qu'il vous donne des promesses grandes et merveilleuses qui vous permettent d'espérer le temps où vous serez avec lui dans le ciel. Il dit bien à cause de cela même, c'est-à-dire la raison pour laquelle vous devez faire des efforts, c'est tout ce qu'il vient de dire avant. Et il dit vous devez faire des efforts pour vivre une vie qui soit à la gloire de Dieu. Et la nature de cet effort, c'est de joindre à la foi. Alors, ça ne veut pas dire que la foi est incomplète, mais ça veut dire qu'il faut j'ai envie de dire, pour prendre une expression, il faut la muscler un peu. Il faut la rendre visible. Il faut qu'elle se manifeste par des œuvres. Et il dit, il faut. Alors, le terme pour joindre ici, c'est vraiment de donner de manière très généreuse. Et l'idée, c'est que à l'époque, quand l'État, la Grèce antique, quand il faisait des spectacles ou du théâtre, c'était le chef de chœur ou le chef de spectacle qui payait les frais, lui-même, de sa poche. Mais il le faisait de manière extrêmement généreuse. Et il dit ici, voilà, vous allez ajouter de manière généreuse toutes ces choses à votre foi. Alors, c'est pas juste, je vais ajouter la connaissance, et puis une fois que j'ai ajouté la connaissance, je vais ajouter la patience, et puis une fois que j'ai ajouté la patience, je vais ajouter autre chose. C'est pas une espèce de sommation dans ce sens-là. Alors, on peut pas dire, voilà, je suis patient, maintenant c'est bon, je peux maintenant travailler sur l'amour. Celui qui n'aime pas, il n'est pas non plus patient. Je peux pas avoir la patience sans l'amour, l'amour sans la patience. C'est un tout, c'est comme le fruit de l'esprit. C'est différents aspects, mais c'est le même fruit. Donc ces choses doivent grandir au fur et à mesure en même temps. Qu'est-ce que Pierre veut dire ici? Il veut dire qu'un chrétien qui ne fait pas des efforts pour grandir dans ces choses doit se poser des questions sur la réalité du salut, de son salut. Ça fait 15 ans, 20 ans qu'il dit que je suis au Seigneur, mais il ne fait pas d'efforts, il ne peut pas mesurer le moindre progrès dans sa vie, peut-être qu'il y a quelque chose qui manque quelque part. Et il faudrait reconsidérer, pendant qu'il en est temps, les choses. Bien sûr, personne n'est parfait. Mais je rencontre parfois des gens qui disent qu'ils ne vont plus à l'église depuis des années, des années, des années. Qui disent, je n'ai pas perdu la foi. Est-ce que c'est possible, d'après ce que la parole de Dieu dit ici? La foi, c'est quelque chose qui vit. C'est pas quelque chose d'inerte. Et Pierre dit que la foi, elle doit se manifester par la patience, par la bonté, par la connaissance, par la piété, par toutes ces choses que l'on voit au fur et à mesure. Et c'est comme ça que la... Et c'est ça qui montre qu'il y a une foi réelle. L'apôtre Jacques disait, montre-moi ta foi sans les œuvres, je te montrerai ma foi par les œuvres. La foi s'accompagne d'œuvres. Et donc, il veut dire ici, il faut travailler. Donc, on ne va pas développer chacune de ces choses. Vous pouvez le faire. Mais il veut dire ici qu'il faut fournir ses efforts. La conséquence de la présence ou de l'absence de ces efforts, on le voit dans les versets qui suivent, si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on voit, on a dit tout à l'heure que la divine puissance qu'il nous donne, on obtient par la connaissance de Jésus-Christ, la grâce et la paix sont multipliées par la connaissance de Jésus-Christ, mais il dit que si ces choses ne sont pas en vous, vous êtes stériles, c'est-à-dire inutiles, en ce qui concerne la connaissance de Jésus-Christ. Donc on voit que tout est lié, les choses s'imbriquent, on ne peut pas prendre les choses séparément, puis dire voilà, il y a ça, il y a... Non, tout est lié, tout s'imbrique, le salut a des implications dans pratique, doit avoir des implications pratiques dans ma vie, parce que si ces implications pratiques ne sont pas là, je ne fais pas non plus de progrès dans la connaissance de mon Seigneur Jésus-Christ. Si ces choses sont en vous, alors, et avec abondance, ici en plus, vous ne serez pas oisifs, vous ne serez pas stériles. Mais, verset 9, celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, et il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il est myope, c'est ce que ça veut dire. Il ne voit pas de loin, c'est flou. L'avenir est flou, parce qu'il ne voit pas de loin. Mais regardez ce qu'il dit. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il ne voit pas non plus derrière. Il est avec une vision obscurcie. Et vous savez, quand on est chrétien, enfant de Dieu, on a besoin de voir le progrès quand même parcouru. De dire, oui, c'est vrai qu'il y a quelques années, j'avais des problèmes ici ou là avec ceci ou cela, mais le Seigneur m'a délivré de ça. Et j'ai abandonné ces choses par la puissance et par la grâce de Dieu. Je remercie le Seigneur pour cela. Et on a, cela nous encourage encore à marcher, à avancer. Mais il dit que celui qui ne fait pas des efforts, non seulement il ne voit pas loin, il n'a pas de perspective, mais il a même oublié ce pourquoi il a été pardonné. Ça veut dire donc qu'il a même peut-être le risque de retomber aussi dans ces choses. Donc il dit ici, celui en qui ces choses ne sont pas sont aveugles parce qu'il ne voit pas de loin, parce qu'il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, je termine, c'est pourquoi verset 10, frères, dit-il, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est-à-dire que le chrétien qui ne fait pas ses efforts. Bien sûr, nous sommes élus, nous avons été appelés par Jésus-Christ quand il rachète, mais nous avons besoin d'être affermis dans la chose, d'être assurés nous-mêmes. Notre cœur, comme dit l'apôtre Jean, a besoin d'être rassuré. Et ce qui nous rassure, c'est la qualité de la vie chrétienne que nous menons. Ce n'est pas simplement l'hypothétique salut que nous disons avoir. Oui, je suis sauvé, c'est vrai, c'est bien, mais ce qui me rassure, ce qui nous rassure, c'est le fait que nous voyons cette vie spirituelle se manifester dans nos actes de tous les jours. Avec nos imperfections, bien sûr, avec nos chutes. Mais le Seigneur nous relève et on voit que l'on progresse au fur et à mesure. Pas après pas, on grandit dans sa connaissance. Cela nous rassure. Hein? Et quand l'ennemi vient nous troubler, il dit, non, nous avons l'assurance que Dieu œuvre en nous, parce que nous voyons des choses qui se produisent, et nous savons qu'elles ne peuvent pas changer autrement que par la grâce agissante de Dieu dans notre vie. Et Pierre dit, si
il faut donc vous appliquer, il faut vous empresser, verset 10, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Une pleine entrée. La porte est étroite, le chemin sinueux, dit la Bible, mais l'entrée, elle est, dans le royaume, elle est large pour ceux qui sont rachetés, conscients de leur salut, du prix que le Seigneur a payé, conscients de toutes ces ressources qu'il met à notre disposition pour vivre cette vie chrétienne d'une manière qui lui plaît, conscients des promesses qu'il nous fait, des grandes et des précieuses promesses qu'il nous fait pour que nous puissions devenir participants de la nature divine. Ça n'est pas rien, ça. Ça n'est pas rien. Et conscient des efforts que nous avons aussi à fournir à cause de cela même. À cause de cela même. Parce que, dit-il, si ces choses sont en nous avec abondance, nous ne serons pas des chrétiens stériles. Nous allons porter du fruit à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous serons même rassurés sur notre propre salut, sur notre élection et notre vocation et notre appel. Et nous saurons avec certitude, oui, que le ciel nous sera accordé selon la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez combien, ce que je veux terminer, dire cela en terminant, combien la vie chrétienne est importante dans le salut. C'est-à-dire, on peut pas dire « je suis au Seigneur » ce que Pierre dit, et puis ne pas avoir une piété, une vie qui corresponde au salut. C'est important. C'est important. Parce que pour nous-mêmes, c'est important. C'est important pour notre connaissance, notre croissance même de notre Seigneur, notre croissance dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse sa parole dans nos cœurs. Souvenez-vous donc de ces choses. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes, mais vivons pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Priez.